Athènes, Dominique, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les manques vivants. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On non la considère pas fatale. Et en petite métaphore, on pourrait dire aux enfants, le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. Nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Vous vous retirez sur le côté gentiment. Monsieur, comme ça il n'y aura pas de violence.
Il n'y aura aucun inconvénient, j'attends les ordres.
Oui, c'est les Grégor, donc chaque semaine sur l'écho des Grégor Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. C'est Grégor, une parole anarchiste communiste. Il y a encore les... Bonsoir. Bon, je crois qu'on a quelqu'un au téléphone là concernant un procès qui...
Olivier, tu m'entends?
Oui, là. T'entends.
Ouais, ok, très bien. Alors ce soir, on va parler du procès... De Christophe Sider et de Omar Top, qui se déroule en ce moment aux Assises de Lyon.
Et ouais.
Toi, tu y assistes depuis début de la semaine. Alors, Christophe Sider, on en avait déjà parlé ici, puisqu'on avait eu...
sa maman, Catherine. Catherine, qui nous racontait un peu le parcours judiciaire et carcéral de Christophe. Et voilà quoi, Christophe est donc jugé aux Assises de Lyon pour sa troisième tentative d'évasion, c'est ça?
Ça, non, il y en a plus que ça. il y en avait des plus petites, plus jeunes, mais il y a les dernières, c'était celle de Fresnes en 2001, et puis ensuite il y a eu celle de Lannemezan en 2005.
Ouais, c'est
puis,
ça.
Et puis voilà, et ensuite donc.
Où un hélicoptère était venu le chercher, mais malheureusement l'échelle, le filin était trop court, quoi.
Et ça, c'est celle de Fresnes en 2001, ouais.
Ouais. Et à ce moment-là, il y avait eu un des matons du mirador de la prison qui avait tiré sur l'hélicoptère en plein vol, alors que celui-ci était au-dessus de la cour de promenade. Enfin bon, on aura l'occasion d'y revenir. Donc Christophe, il a une histoire judiciaire et carcérale, je dirais affreusement banale, mais en même temps pas si banale que ça, quoi, puisque il a été condamné pour des braquages, c'est ça?
Et
Oui, Olivier, tu es toujours là?
Il y a un problème.
Alors, on a un problème technique apparemment depuis le début.
Le ministère public
ouais.
Avait requis 20 ans de prison, ce qui était déjà énorme. Et ben, la présidente, déjà Janine Drey, connue sous le nom de Madame 30 ans, n'avait pas dérogé à sa réputation à l'époque, et lui avait collé 30 ans. 10 ans de plus que ce que demandait le procureur, ce qui est très rare quand même.
Ouais.
Et donc voilà, et ça, il avait à ce moment-là, il avait une vingtaine d'années, et sur cette peine-là, il en a déjà fait plus de 18. Hein. Et puis donc ensuite, il a repris 15 ans pour la tentative d'évasion de Fresnes, et puis ensuite, il a pris 5 ans pour celle de Lannemezan, et tout en sachant que toutes ces peines-là ne sont pas confusionnables, hein. Les peines d'évasion ne sont pas confusionnables avec les autres peines. Et tu m'entends?
Oui, je t'entends très bien. Oui, oui.
T'entends,
et
oui.
Puis donc, et donc voilà, là pour le moment, il est libérable à peu près en 2040. et avant même que se termine ce procès-là, dans lequel il risque, bah, il risque carpette. Parce qu'ils lui ont collé deux tentatives d'homicide volontaire sur des matons, des tentatives volontaires qui n'existent pas, qui sont complètement farfelues, là, on l'a vu dans les premiers jours du procès. L'inculpation est vraiment, enfin, c'est vraiment histoire de l'enfoncer, et deux, de gratter de la thune pour ceux qui sont constitués partie civile. Voilà.
Ouais, et puis de constituer, parce que bon, nous on a eu, enfin moi j'ai eu quelques échos, parce que dans la presse mainstream, on a parlé d'autre chose cette semaine, mais de constituer aussi cette espèce de figure d'ennemi public numéro un, de monstre froid, quoi, de comme ils savent très bien le faire, quoi.
Alors ça, de toute façon, vu le... Bah, là, par exemple, je suis en bagnole, on vient par hasard, hein, de voir passer le fourgon qu'il ramène, et le fourgon il est constitué de scéniques du GIGN, un camion blindé, style camion blindé de transport de fonds, deux autres fourgons derrière, et tout ça encadré par les motards avec un hélicoptère au-dessus. Histoire de bien montrer, toi, alors c'est vraiment ridicule, hein, et après, donc, s'il avait voulu être dangereux, il aurait été dangereux pendant n'importe laquelle de ses évasions. Or, il a jamais, il a jamais blessé personne. Donc, dans ses évasions. Donc, tu vois, comme danger, on fait mieux, hein. Faut oublier que dans cette histoire d'évasion, la dernière, de Moulin, il n'y a pas eu un seul coup donné, il n'y a pas une seule goutte de sang qui a été versée, à part celui de Christophe.
Oui, parce qu'il s'est pris une balle, il s'est pris une balle dans le bide,
plus haut que le bide, il s'est pris une balle dans le thorax, il visait le cœur, hein. Il s'est pris une balle dans le thorax, vraiment pas loin du cœur, et ils l'ont raté, heureusement, enfin, moi je pense, heureusement. Et puis, voilà, c'est le seul sang qui a été versé, donc la dangerosité, elle n'est pas de dans ce coin-là. Hein,
parce... Ouais. Ben, oui, parce et... que, ouais.
Ouais.
Parce que Christophe, il a rajoute un petit peu, j'allais dire, à son casier, c'est que Christophe, il ouvre sa gueule, quoi. Et il assume.
Exactement. Et alors, le problème pour eux, c'est quand il parle, il en impose, on voit exactement ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il exprime très très bien. Il assume tout ce qu'il fait, et il précise bien que, toi, les motifs qui l'ont poussé à ça, il a encore dit cet après-midi. Il a dit, moi, de toute façon, l'évasion, c'est ma seule perspective, et ça le restera. Et quand le président lui a demandé, mais pourquoi, par exemple, s'il a dit que il devait retrouver quelqu'un qui était censé lui remettre un sac d'armes si sa cavale s'était prolongée, le président lui a demandé pourquoi faire, et lui, il a dit, parce que pour aller chercher des amis, parce que des gens qui souffrent en prison, qui passent des 20 ans qu'on enterre vivants, j'en connais plein, et pour lui c'est normal d'aller les chercher, quoi, tu vois, pour te dire que c'est là, voilà, son seul objectif à Christophe, c'est un, recouvrir la liberté, et deux, la faire recouvrir à qui pourra le faire, c'est tout.
Et donc, en fait, à travers le cas de Christophe, se pose la question des longues peines d'une part, et la question carcérale en général d'autre part, quoi.
Ah bah ouais, se pose surtout la question là du coup des longues peines, parce qu'on le voit bien, on a vu des directeurs de tôle, les deux directeurs de Moulin passer, on a vu des matons passer, etc. là déjà la semaine dernière. Alors bien évidemment que les conditions de détention elles sont évoquées. Et là, ce qu'on sent le plus dans ces procès d'assises, et c'est ça qui est vachement important, c'est que au-dessus de la prison, eh ben, il y a la justice, et il y a celle, tu vois, et c'est là, c'est évidemment tout ça qu'il faut dénoncer, parce que c'est ces cours-là qu'on voit des gens pour des 20, 30 ans au placard, sans même imaginer ce qu'ils sont en train de faire, pour des simples vols, ou pour des actes, comme ils appellent, commis en récidive, même si Taubira a fait la belle, là, enfin, mais juste dans sa tchatche. Pour faire croire à qui veut bien l'entendre qu'ils vont revoir tout ça, tu penses, ils l'ont fait déjà, ça fait de 30 ans, ils continuent à raconter du baratin, mais là, pour une récidive, bien sûr qu'on continue à pouvoir risquer des peines très 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 lourdes, et c'est le cas, et donc c'est bien ça, la critique, elle est bien là d'abord, avant d'être celle du système carcéral, même si ça permet de dire, voilà, les prisons dites modernes qu'on construit, etc., voilà dans quel genre de prison, lui, il est enfermé maintenant. Des espèces de tombeaux tout propres, là, spécialement conçus pour ces longues peines. Mais donc, au-delà, voilà, mais au-delà de ça, il y a dénoncé la justice et à quoi elle sert et surtout à qui elle sert.
Ouais, tout à fait, d'autant plus que Christophe, il est en prison dans la prison, puisqu'il est en quartier d'isolement, il est DPS, détenu particulièrement surveillé, avec tout le folklore qu'il y a autour, quoi. C'est-à-dire que si c'est pas encore transformé en monstre, en tous les cas, on le traite comme tel, quoi. C'est quoi, on peut décrire comment le quartier d'isolement et le statut de DPS, hein.
Alors, c'est même pas un quartier d'isolement, c'est pire que ça, là où il est enfermé, c'est dans leur nouvelle structure qu'ils installent dans une série de nouvelles prisons. C'est une prison, t'as raison, c'est une prison dans la prison, c'est ce qu'ils appellent les QMC, les quartiers maison centrale. Et là, c'est une prison, par exemple, pour Christophe, où il est avec huit prisonniers, huit pour une trentaine de matons, avec, tu vois, enfin, c'est vraiment c'est pas un quartier d'isolement, c'est une prison isolement. Ils ont réussi à faire leur prison isolement. Et ça fait longtemps qu'ils bossaient là-dessus. Ça fait depuis 2002 qu'ils ont annoncé l'ouverture. Ça y est, ils l'ont fait. Il y en a une à Réau, il y en a une à Annelin, il y en a une à Séquedin, et puis maintenant ils vont en faire d'autres, bien sûr. Pour enfermer, des gens comme Christophe, et il est pas le seul, hein, il y en a d'autres, hein, bien sûr.
Ouais, un peu comme les FIES en Espagne.
Exactement, voilà.
De toute façon, eux, pour là-dessus, il y a de la collaboration carcérale et judiciaire, quoi. Donc, pour dire aux gens qui nous écoutent, c'est genre, tu vois deux personnes dans la journée, une personne dans la journée, c'est tout, et tu vois la même personne tout le temps, quoi, ou les deux mêmes personnes dans la semaine, et voilà, c'est une heure de promenade par jour.
Ouais. Et rien comme activité, enfin, etc. Ben voilà, tu vois, avec... Il faut avoir la chance de tomber sur, je sais pas, 8 personnes avec qui tu t'entends à peu près, parce qu'imagine qu'il y ait quoi que ce soit, là c'est invivable, hein. C'est tout petit, moi je veux pas avoir le voir, c'est minuscule, quoi. Là, tout est petit, et donc si jamais il y a n'importe quoi, ça explose tout de suite. Et ça, ils le savent bien aussi, quoi. Et ils peuvent jouer avec ça. Ils choisissent eux qui mettent ensemble, qui mettent pas ensemble.
Bien sûr. L'objectif étant de casser les mecs individuellement et encore plus collectivement. Là, c'est pas le cas puisque à 8 ou 10, peut pas y avoir de solidarité ou de baston collectif, mais de casser tout ce qu'il pourrait y avoir comme solidarité entre les personnes, quoi.
Ouais, exactement.
Ouais. Bon, alors, il y a quand même un truc qui est intéressant, c'est que ce procès-là, qui est le procès de Christophe, malheureusement, on peut évidemment pas être optimiste pour lui, mais s'il peut servir à quelque chose, c'est quelque part mettre en accusation ce système carcéral. Et pour ça, il y a un avocat qui est assez intéressant, qui s'appelle Bernard Ripert, qui a l'habitude de ce genre de procès, et pour le moment, est-ce qu'il a réussi un petit peu, je dirais, à faire ce travail-là?
Il n'arrête pas. Dès qu'il peut y aller, il y va. Hein. Il est traite de facho. Ses premières déclarations ont été oui, tout prisonnier a le droit, et lui il considère que c'est le devoir même, il a dit, de s'évader, hein, comme disait Nesrine. Et puis il leur a dit l'avant-dernière fois, il a raté l'évasion. La dernière fois, il a réussi l'évasion, mais il a raté sa cavale. La prochaine fois, il réussira et l'évasion et la cavale. Enfin, voilà. Pour ça, Ripert, c'est pour comme pour tout, hein, c'est un très bon avocat. Car c'est un avocat militant, c'est un avocat, il faut le dire, qui a une conscience de classe, qui sait de quoi il parle. Il est opposé à cette justice, mais il est opposé à la justice parce qu'il est opposé à ce monde qui fabrique cette justice. Donc du coup, il sait très très bien à quoi elle sert, quoi. Encore une fois, elle sert à des mondes, à défendre un monde de possédants, une société capitaliste. Voilà, quoi.
Oui, de toute façon, on en discutait avec Laurent Jacquat il y a quelques semaines du rôle et de la fonction de la prison, d'autant plus dans une période telle qu'elle est aujourd'hui, où soit tu acceptes de te faire exploiter, soit tu vas chercher l'argent là où il est, mais voilà quoi, avec les risques que ça incombe. Et puis, si tu respectes pas les règles et que tu acceptes pas de subir, ben il y a ce coup près, quoi. Ouais. Certes, il y a plus la peine de mort en France, mais en fait, elle existe encore, quoi. Parce que là, comme disait l'affiche, la guillotine ne laisse aucune chance. Les longues peines, la longue peine, les prisons non plus, quoi.
Ah bah oui, non, c'est certain. Là, c'est la gauche là-dessus, en 80, avant de supprimer la peine de mort, ils étaient obligés de le faire. Enfin, ils étaient obligés d'abolir la guillotine, ouais. Pas la peine de mort, parce qu'ils l'ont remplacée effectivement par des peines des peines de plus en plus longues, avec tout ce système de sûreté, des peines de sûreté qui font que, bah voilà, tu crèves en prison. Mmh. Tu crèves en prison à la place de crever dehors ou sous le couperet. Il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui crèvent en prison, qui se suicident, etc., que de gens qui étaient guillotinés. On regrette pas la guillotine, hein, il s'agit pas de dire ça. Mais en tout cas, on peut pas dire qu'il y ait un progrès aujourd'hui. Ça, c'est pas vrai. C'est un mensonge. La mort est là en prison, et bien là. Elle est là en prison comme elle est là dehors, hein, quand les flics, ils shootent des mômes dans le dos, dans la rue. Ça s'appelle une peine de mort aussi, hein. Pas contrairement, hein.
Tout à fait. Mais il y a quelque part aussi, en plus, le cynisme de la prison, puisque à l'intérieur, avec ce système-là et avec ces justices-là, justement, on oppose d'un côté les bons citoyens qui seraient menacés par des espèces de sauvages et de monstres, tels que ces braqueurs type Omar ou Christophe. Est-ce que tu sais s'il y a un petit peu de mouvement autour du procès? Est-ce que justement
Pas assez. Nous, on est quelques-uns, on est une petite douzaine, mais c'est peu à côté des matons qui sont déjà... Il y a 30 parties civiles, donc il y a 30 matons, plus leurs proches, machin, etc., leur hiérarchie. Donc pas assez, on essaye de faire ce qu'on peut, on va faire une réunion publique vendredi prochain encore. Voilà, mais c'est sûr que... Je sais pas, c'est Lyon, c'est pas une ville... c'est pas pour le moment une ville très très... très facile à motiver, on dirait. Donc, je suis étonné. Il y a assez peu de monde. Je pensais qu'il y aurait plus de monde. On a fait pas mal de radios, pourtant, etc. Ça s'est sur les sites, ça a circulé. Ouais. Mais non, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent en...
Ouais. Ouais, c'est regrettable, c'est dommage, effectivement. Ouais. Mais excuse-moi, il y a des gens qui font les imbéciles dans le studio. qu'est-ce que il reste 15 jours de procès, c'est ça?
Oui, il y a le temps de venir encore, hein. Voilà, ouais. Ça, c'est sûr. Il reste jusqu'au vendredi 19.
D'accord.
C'est-à-dire, oui, il y a encore 2 semaines, la pleine, quasiment.
C'est énorme pour une tentative d'évasion, 3 semaines.
Ah ouais, bien sûr. Ouais. Ah ouais, mais il y a 30 parties civiles, donc...
Tout le monde va venir chialer et essayer de récupérer, gratter de la thune, quoi.
Ah oui, ils sont tous là pour ça, ouais. Ripper leur a demandé, vous êtes victime de quoi? Aujourd'hui, on a entendu la meilleure. Il y a un keuf qui est venu, qui était là pendant l'arrestation, et lui, il lui demande, vous êtes victime de quoi? Le mec, il arrive à dire, le keuf, je suis victime d'un refus d'obtempérer. C'est-à-dire que, enfin, tu vois, le mec, il arrive pas, voilà, il devient victime. Il est dans son boulot, il y a quelqu'un qui t'arrête pas quand tu lui dis de s'arrêter, il est victime. On n'a jamais vu ça, quoi.
Ouais.
Et parce qu'il a rien, il n'a jamais été blessé, il n'a jamais été menacé, il n'a rien arrivé à lui. Hein.
Alors que quelque part, quand même... Si nous on regarde, on n'est pas là évidemment pour juger les gens, mais quelque part on pourrait que réclamer l'acquittement, puisque c'est l'expression de son humanité de vouloir s'évader et de vouloir recouvrir sa liberté.
Bah évidemment, surtout là on a vu plein de parties civiles, pas des flics, non, mais les gens qui ont fait prendre en otage, on peut dire comme ça, hein, avec leur bagnole pendant leur cavale, ils ont tous dit, hein, ils ont tous dit, on n'a pas été violenté, ça s'est bien passé. Évidemment, c'est jamais agréable de se faire braquer, etc. Mais pas tout le monde en convient. Mais enfin, c'est pas non plus le drame de ta vie, quoi, tu vois. Et
Ouais, ouais. Il était lors de sa cavale, il était passé en voiture à côté de la ville de Reims, là où on est, et le mec qui l'avait emprunté la bagnole avait témoigné dans le torchon local en disant que bah non le mec était super correct, hein. Il avait été très très correct. C'était plutôt les flics qui lui avaient fait peur en fait que plutôt le mec en fait. Donc voilà quoi.
Il est venu le dire aujourd'hui, là, on l'a entendu aujourd'hui.
D'accord, bah chic, ouf, un bon point quand même.
Il n'y a
pas
que
des abrutis.
Il y a plusieurs comme ça, hein, qu'on dit, non, mais ouais. Ils sont bien comportés, machin. Ouais. Mais non, mais. On va voir ce que ça va donner, parce que les jurés, ils entendent tout ça. Maintenant, le président, il est connu pour être pas du tout laxiste, quoi. Tu vois ce qu'on peut dire.
Et pourquoi il le juge à Lyon, tu sais?
Ouais, parce que Moulin dépend de Lyon.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, ça les arrange parce que c'est vrai que la cour d'assises de Lyon, elle est quand même reconnue comme étant super hard, quoi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter éventuellement
Non, ce qu'on peut faire, c'est que on se repasse un petit coup de fil lundi prochain pour
faire le suivi. Ça marche.
Est-ce qu'il a eu des témoins qui sont venus pour témoigner pour lui? Non.
Non, il n'y a pas eu de témoins, en fait, il n'y a pas eu de témoins. Les seuls témoins qui auraient... Mais non, parce qu'il n'y avait pas de témoins des faits qui pouvaient témoigner de quelque chose.
Ouais.
Et les témoins de moralité, ils n'auraient pas été pris comme assez moraux.
Ouais. Ils n'auraient pas été acceptés.
Voilà.
Donc, d'accord.
Ça marche.
À un moment, c'est demandé, mais...
Okay. Merci Olivier, bon courage pour la suite. Et puis, à bientôt, ne raccroche pas le téléphone, j'arrive tout de suite.
D'accord, à bientôt, salut.
À bientôt, au revoir. Oui, dans l'interview de tout à l'heure, il a évoqué, la personne qu'on interviewait a évoqué le cas de jeunes qui se font descendre par des balles dans le dos le plus souvent, mais aussi par des serrages, etc., de la part de la police en France. Et il y a un article qui vient de paraître dans le site Basta, donc qui est très récent, qui date du 2 avril 2013, donc de la semaine dernière. Vous pouvez le consulter. Alors le titre est bizarre déjà. Bavure policière mortelle. Bon déjà bavure, faudrait peut-être à force de baver la police. C'est incroyable d'ailleurs de parler encore de bavure alors que on dénombre entre 500 et 1000 personnes qui sont mortes depuis les années 70. de balles ou de mauvais traitements de la part de la police, donc déjà. Et puis après, ça il dit 30 ans de quasi-impunité. C'est pas 30 ans, c'est 50 ans, voire 60 ans. Alors justement, on a repris un petit peu l'histoire. Il y a eu un bouquin qui est sorti en 1992 de la part de Fausto Guidice, un Italien, qui s'appelle Arabicide, une chronique française de 1970 à 1991, pendant 21 ans, dirons-nous. La moyenne était entre 5 et 7 personnes qui étaient tuées. De jeunes, la plupart du temps, bien évidemment, à cette époque-là, c'est pour ça s'appelle les arabicides. À cette époque-là, à 95%, voire plus, c'était des gens issus de l'immigration maghrébine. Maintenant, ça a tendance à changer, puisque au niveau de la jeunesse, il y a eu une jeunesse issue, de l'Afrique noire, tout simplement, ce qui fait que maintenant, les gens qui se font descendre ou qui se meurent dans les... D'ailleurs, ce sont pas forcément des jeunes, je vais y revenir tout à l'heure, sont souvent d'origine maghrébine toujours, mais aussi d'origine d'Afrique noire. Donc, alors lui, il faisait, Guldich Fausto, faisait donc une analyse intéressante. Je vais vous la lire. C'est d'ailleurs l'analyse a été reprise par Maurice Rachus dans Que fait la police, qui existe toujours. Vous pouvez d'ailleurs consulter chaque mois ce que Maurice raconte au niveau toujours des exactions de la police. Lui est spécialiste au départ de la police de Vichy, qu'il a bien connu. Et puis ensuite, il a continué et il continue encore malgré ses 80 et quelques années. Donc voilà ce que disait Fausto. Comment et pourquoi l'arabicide est-il à ce point banalisé? Il propose une réponse. La cinquième république repose sur un crime fondateur, l'arabicide de masse, commis tout au long de la guerre d'Algérie, puisque jusqu'à dans les rues de Paris. Ses auteurs et ses responsables ont bénéficié d'une impunité totale par le jeu des amnisties. Effectivement, toutes les actions qui ont eu lieu à cette époque-là, ont tous été amnistiés. Ce fut là, à une échelle réduite, ce que les militaires, c'est aujourd'hui, à une échelle réduite, ce que les militaires, policiers et simples particuliers ont fait en temps de guerre. Donc voilà, lui, l'analyse qu'il faisait, donc en 91. Alors maintenant, bon, dans l'article que j'ai sous les yeux, là, du site Basta, j'ai critiqué le titre, mais le contenu est très bien. C'est-à-dire que il raconte que quand même l'année 2012 a eu leur corps, 18 personnes qui sont mortes sous les balles des policiers, ou pas que les balles, hein, puisqu'il y a eu des gens qui ont été victimes d'arrêts respiratoires dans le fourgon de police après avoir pris des coups, des gens qui on s'assoit dessus, hein, le truc bien connu, on s'assoit dessus pour les étouffer. Il y en a tout de même pas mal qui sont morts. Puis il y a aussi maintenant les armes qui sont nouvelles, comme le Taser. C'est ainsi qu'il y a une personne qui est morte à Colombes, victime d'un tir au Taser. Ensuite, il y a eu ceux qui sont, on ne sait pas trop comment, mais de toute façon, s'ils sont morts en garde à vue, c'est parce qu'ils étaient déficients quelque part. C'est-à-dire que, alors, il y a la police, mais il y a aussi la justice qui couvre tout ça. Je pense que c'est très important de comprendre que dans la plupart des cas, tous ces assassinats, on peut le dire ce qui est, se terminent très bien. Pour les policiers, et ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui font comme lui, comme ce journaliste a fait, quand il répertorie un petit peu tous les cas, il a pris un échantillon de 180 personnes, donc qui sont décédées, donc au cours d'une opération de police. Environ un tiers des affaires ont été classées sans suite. Un tiers. Il y a une trentaine qui ont débouché sur un non-lieu, donc c'est en plus. Hein. Une dizaine sur des relaxes. Ah, en plus, oui, oui. Alors, soit plus de la moitié. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a plus de la moitié, donc, des personnes où vraiment les gens n'ont pas eu de problème. Ensuite, 70 ont eu des peines de prison avec sursis, pour des auteurs de violence. Et, en fait, il n'y a eu que 10 condamnations à de la prison ferme. C'est presque un lieu commun que de parler d'impunité, puisque 10 personnes sur 180 dans des cas, d'ailleurs, la plupart du temps, où c'est prouvé que balle tirée dans le dos, etc. Tire des gens qui ont été écrasés par les policiers dans le fourgon, on s'assoit dessus, des gens qui ont reçu des charges de taser, d'autres qui ont eu des balles. Des balles, comment ça s'appelle, pas des balles de fusil.
Le flashball?
Ah, le flashball, oui, qui fait des dégâts. Donc, voilà, c'est vraiment une histoire qui devient de plus en plus inquiétante, hein, puisque, comme je vous le disais, en 2012, ça a été leur record, quoi. Jusqu'à maintenant, on en était autour de 12-15. Maurice Rachut disait encore, lui, il fait tout pour répertorier tous les cas. C'est difficile de répertorier d'ailleurs les cas, hein, parce que bon, quand la personne n'est pas isolée, ça va, on le sait. Et puis, quand la personne est isolée, la plupart du temps, on le sait longtemps après, voire pas du tout. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que on sait peut-être pas tout, puisqu'il y a des gens qui sont isolés et qui meurent bizarrement dans les mains de la police. Bon, si les gens n'ont pas de relais à l'extérieur, en particulier les relais familiaux, parce que la plupart du temps, ce sont les relais familiaux qui font en sorte que le cas est connu, eh bien, personne ne le sait, quoi, c'est évident.
Oui, c'est ça, où il y a des réactions collectives dans l'espace social où vivait la personne, hein, dans les quartiers, dans les banlieues, ou alors il y a les familles qui s'organisent et qui essayent d'avoir une parole publique, quoi. Mais donc, on peut imaginer qu'un clochard dans un coin ou des bavures discrètes ne viennent pas jusqu'aux yeux. Et je crois que moi, ce qui alors. Ces bavures, elles sont inhérentes à l'histoire de la police depuis toujours. Mais c'est vrai que dans des périodes de tension sociale comme on est en train de la vivre en ce moment, ça augmente. Par contre, ce qui est plutôt une variation, c'est le discours de la police et du pouvoir. Alors, de temps en temps, tu avais la possibilité d'avoir ces fameuses IGPN, Inspection de la Police Nationale, où l'on parlait de la justice, etc., etc. Or, maintenant, on est en train de le normaliser et on s'aperçoit, comme le disait tout à l'heure le camarade du procès de Lyon, que les flics, eh ben, ils font les victimes. Alors on a entendu, il y a eu des obsèques nationales pour des agents de la BAC qui s'étaient fait tamponner, qui avaient été victimes d'un accident de voiture. Vraiment, il y a un vrai, une vraie couverture totale de la part du pouvoir vis-à-vis de ces forces de l'ordre, parce que il sait très bien que, plus on leur demandera de faire le sale boulot, parce qu'ils font le sale boulot, plus il faudra les couvrir, plus il y aura des abus, et que effectivement, dans des périodes de tension sociale, hormis bien évidemment les actes et le racisme qu'il peut y avoir inhérent à la flicaille, hein, en période de tension sociale, c'est primordial pour le pouvoir de pouvoir compter sur ces forces de l'ordre qui portent bien leur nom. Alors moi je crois qu'on peut vraiment dire et plus que jamais, comme disait Maurice Strasfouche, selon les périodes, les flics n'aiment pas ou la police n'aime pas les Arabes ou les Juifs, qu'on me laisse simplement le droit de ne pas aimer la police de mon pays, quoi.
Tout à fait. Alors, il y a eux aussi. Alors, ce qui est significatif, c'est dans les procès. C'est-à-dire que quand la personne meurt d'armes létales ou d'avoir été coincée en garde à vue, où on retrouve un corps bizarre, c'est-à-dire la famille récupère un corps, mais elle s'aperçoit que la personne a reçu des coups visibles très clairement. Généralement, en plus, il faut savoir que la famille va récupérer le corps 48 heures, 72 heures après les fêtes. C'est dur. Donc, c'est très difficile déjà d'intervenir au niveau justement de la justice et puis aussi d'enquête. Mais ces gens-là, généralement, sont tellement isolés que de toute façon, ils enterrent leur mort et puis c'est tout. Et il n'y a pas d'étude qui est faite au niveau autopsie, etc. Mais il y a eu des trucs qui ont été aberrants, qui ont prouvé que, par exemple, alors à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt parce qu'il a été écrasé par la police dans le fourgon, on s'est assis dessus, on plie, c'est ce qu'on appelle, le pliage, ouais. C'est-à-dire qu'on plie la personne et on s'assoit dessus. C'est-à-dire que la personne, eh bien, ce truc-là, maintenant, c'est interdit dans certains pays, pas encore en France, hein. Et il y a eu des morts, dans les fourgons, au commissariat, etc. Et, à chaque fois qu'il y a un procès là-dessus, eh bien, c'est la personne qui meurt qui est responsable de sa mort, parce qu'elle devait avoir certainement un problème cardiaque, elle devait avoir certainement un problème à tel ou tel niveau, et c'est jamais la police qui est mise en cause et l'acte qui est mis en cause. Alors, faut dire aussi ce que j'ai dit, les quelques policiers qui ont eu des problèmes, il faut savoir que certains d'entre eux, et oui, un tiers d'entre eux, avaient commis leur crime hors service. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas de service ce jour-là, quoi. Et bien sûr, ils avaient gardé leur arme, ils étaient intervenus, voilà. Alors, je pense que vous pouvez donc consulter ce bon article dans Basta. Vous tapez sur un moteur de recherche Basta, et vous avez, c'est un article qui date très récent, donc du 2 avril.
Alors, on va mettre un petit refrain qui va nous rappeler, voilà, qui va nous rappeler des vieux souvenirs. Hein. Non, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Oui. Donc oui, bon, il y a eu des versions, c'est pas grave, hein, vous avez pu reconnaître pour les plus vieux d'entre nous l'extrait de la fin du Magicien d'Oz qui parle de la mort de la sale et vieille sorcière, et on vous a mis ce petit son parce que bon, quand même, dans cet océan de morosité, parfois il y a des bonnes nouvelles, il y a de temps en temps des nouvelles un peu joyeuses, et on en a pris une cet après-midi, c'est que la vieille sorcière anglaise était décédée, puisque Margaret Thatcher est morte cet après-midi vers 14h. Bon, alors évidemment, c'est la conclusion d'une longue maladie, elle avait 87 ans, mais c'est quand même aussi la fin d'une époque et la fin de quelque chose, et il y a des grosses réactions à l'intérieur de la société anglaise, puisque
depuis tout à l'heure, nos portables et nos mails n'arrêtent pas de sonner et semble-t-il on nous annonce une fête à Londres ce week-end sur la place Trafalgar, puisque il y a beaucoup de gens qui ont certainement oublié plein de choses, mais que les travailleurs anglais et les exploités anglais, eux, ils se rappellent très bien du mal qu'elle leur a fait. Les Irlandais également s'en rappellent très très bien. Ouais. Et ils vont pas se manquer de fêter ce moment important pour eux. Donc effectivement, Thatcher, c'est quand même le symbole ultime de la morgue arrogante bourgeoise, du libéralisme
à outrance,
ouais, tout à fait, et surtout de cette puissance et de cette force de l'État qui ne plie devant rien, hormis rien du tout.
Négocie pas. Hein,
tout à fait.
Je crois qu'on rappellera, tu rappelleras certainement les Irlandais qui sont morts en prison.
Hein. Tout à fait, ouais. Thatcher, c'est d'une part, des Anglais, pour faire de la chronologie, qui se sont retrouvés à aller mourir sur les îles Malouines.
Malouines, en plus.
Falkirk,
oui.
Comme on dit. Donc des appelés qui sont allés mourir sur cette île. C'est la grève des mineurs.
Des mineurs, oui.
Où pendant un an, elle a mis à genoux les syndicats et cassé le système de protection et les solidarités les syndicats ouvriers en Angleterre, qui a encore des conséquences aujourd'hui. Hein. Et puis, d'une manière la plus emblématique, c'est la grève de la faim des prisonniers du H-Block en Irlande, où après plus de 80 jours de grève de la faim, 8 personnes vont mourir les unes après les autres pour pouvoir revendiquer leur statut de prisonnier politique.
Tout simplement. Hein. Ils ne demandaient qu'une seule chose, c'est d'être reconnu en tant que prisonnier politique. Ils ne demandaient pas la mer à boire, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. Et la mère Thatcher n'a jamais accepté pour eux, pour elle, ce n'était pas des prisonniers politiques. Hein, pourtant, il y avait un problème politique, c'est moins qu'on puisse dire, voilà, en Irlande du Nord, et elle les a fait mourir, on peut le dire, quoi. Bon, comme elle a pu contribuer au lynchage, je crois, des mineurs anglais. Les mineurs anglais ont quand même été en lutte pendant peut-être un an, mais c'est plus d'un an, et ça a été terrible au niveau de la répression. Elle n'a jamais cédé. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, de toute façon, ne connaissait pas la négociation et voulait faire table rase de tous les acquis de la classe ouvrière. Et elle y est arrivée, d'ailleurs, au niveau des mineurs, mais aussi d'autres corporations, d'ailleurs. Et elle a tout fait pour l'Angleterre se modernise, comme on dit. Elle a tout fait pour qu'on rentre finalement. C'est en France, il y a eu Reagan qui était à la même époque aux États-Unis d'ailleurs. Hein, et c'est quand même eux qui vont casser tous les acquis des années d'après-guerre, en particulier au niveau des mouvements ouvriers. Ils vont tout faire pour tout casser. Ils vont y arriver d'ailleurs. Dans une période où finalement, c'est le début de la précarité, c'est le début de la crise, comme on dit, mais c'est surtout le début où on fait tout pour que l'économie et les marchés financiers viennent sur le devant de la scène et dictent les politiques des partis politiques au pouvoir. Là, je crois que, d'ailleurs, ce qui est incroyable, tu disais qu'en Angleterre, il va y avoir des fêtes, etc. Ouais, mais je sais pas, vous lisez dans la presse ce qu'a dit Hollande à propos de Margaret Thatcher, ou ce qu'a dit, comment il s'appelle, leur président aux États-Unis, Obama, on tombe des nues, quoi. C'est-à-dire que ils auraient mieux fait de se taire, quoi. Ou alors, Obama, c'est pas forcément, d'ailleurs, ça me paraît un peu évident, mais je crois qu'Hollande aurait mieux fait de se taire. Mais enfin, bon. C'est son problème.
Quelque part, il y avait tout de même aussi une continuité, une certaine collaboration entre Thatcher et Mitterrand. Il y avait une répartition des rôles.
Il y avait une certaine complicité, c'est moins qu'on puisse dire. Ouais.
Bon, alors elle partira suite à un nouveau mouvement populaire qui va s'appeler contre les poll tax.
La poll tax, ouais.
C'est ça, hein,
c'est le meilleur. Enfin, c'est bien parce que bon, c'est quand même quelqu'un qui, au bout de 11 ans de pouvoir, a été obligé de quitter le pouvoir grâce à un mouvement de rue. Ça, je crois que c'est important quand même. Hein. C'était des mouvements de rue importants à Londres en particulier sur la poll tax, où il y avait des centaines de milliers de gens dans la rue et qui campaient jour et nuit dans la rue. Donc il a fallu effectivement, elle a été lâchée. Il a fallu qu'elle quitte le pouvoir. Mais alors, quand même après 11 ans quand même, elle a sévi quand même 11 ans.
Oui, 79 à 90. Elle avait déjà quasiment fait le boulot de quelque part. Vraiment, les poll tax, c'était quelque chose d'inimaginable puisque on imposait par tête quel que soit le revenu en fait.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'un chômeur se retrouvait quasiment au même taux d'imposition que quelqu'un qui pouvait gagner 10 à 25 fois plus quoi. Donc vous pouvez imaginer en plus en 90 en Angleterre, on a une période de misère terrible qu'il l'est toujours hein, d'ailleurs parce que on parle de l'Angleterre et de la Grande-Bretagne comme par rapport à la City ou par rapport au football ou aux millionnaires qui jouent au foot là-haut ou qui viennent jouer au foot à Paris, mais il y a une misère noire et crasse et terrible en Angleterre, et c'est d'ailleurs justement quelque part ces formes de mobilisation politique qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement importantes, où la foule en colère peut se manifester à certains moments et peut être capable de faire bouger les choses. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à nous aujourd'hui qui pouvons entendre ce qu'on entend sur Thatcher, quoi. Alors c'est vraiment une vision de l'histoire qui est extrêmement caricatural, quoi, puisque on transforme avec cette image de la dame de fer, etc. C'est très anecdotique. Or, ce qui s'est passé pendant les années 80 en Angleterre, par rapport à la défaite du mouvement ouvrier, par rapport à la défaite des travailleurs vis-à-vis de leur bourgeoisie incarnée par Thatcher et son État conservateur, les Tories, c'est véritablement un moment extrêmement important dans la lutte des classes en Europe, quoi. Et c'est quelque chose qui a des conséquences sur l'ensemble du monde européen par rapport justement à ces rapports de force entre les gens qui se font exploiter et puis ceux qui déterminent les règles, quoi. Donc ce qui nous reste certainement à se souvenir par rapport à elle, c'est pas la personne, d'autant plus que elle a eu très très chaud puisqu'elle a échappé à un attentat. Alors je n'ai plus la date en tête, malheureusement je n'ai pas bien travaillé, je n'ai pas pris mes notes, mais on se rappelle que Lyra avait failli avoir sa peau suite à un attentat dans un hôtel et que certainement là véritablement le cours de l'histoire aurait pu être changé. Mais bon, Thatcher est un personnage aussi historique soit-elle, mais c'est aussi la représentante d'un système puisque on se rappelle comment tous ces gens-là, entre eux, sont bien contents de se serrer la paluche. Hein. Dernier éclat en date de la part de Thatcher, c'était quand elle s'était exprimée par rapport à Pinochet et à sa venue en Angleterre, quoi, à son asile qu'il avait de fait en Angleterre, quoi. Donc parmi toutes les trucs sirupeux que vous allez avoir cette semaine, regardez plutôt du côté des mouvements populaires. Et puis quelque chose me dit que les Grégor va avoir certainement un micro qui va traîner du côté de Londres ce week-end, parce que c'est quand même quelque chose d'historique et d'important. Enfin, on en reparlera, quoi.
On va faire une pause musicale, peut-être.
Ouais, c'est bon. Problème technique, le disque saute, c'est pas grave. Bon, est-ce qu'il nous reste quelque chose à dire?
Moi j'ai un tas de trucs.
Mais bon, vas-y.
Allez, un truc qui vient du journal L'Humanité. Et oui, la CAF reçoit 3000 lettres de délation par an en France. La CAF, c'est la Caisse d'allocation familiale. 3000 lettres de délation par an. Alors voilà, c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. C'est quand même gros, quoi. C'est important tout de même, hein. C'est des lettres de dénonciation qui sont récoltées par ces 102 antennes départementales. Alors il faut savoir que la CAF dit clairement que c'est pas un problème pour elle. Certaines sont jetées, mais très peu finalement. Elles sont toutes lues de toute façon et peuvent être utilisées si elles apportent des faits éclairants. C'est la CAF qui te dit ça, clairement, le porte-parole hein, de la CNAF. donc la Caisse nationale. Alors ensuite,
Camille, tu n'es pas objectif du tout là. Pourquoi? La CNAF fournit par internet la lettre type de dénonciation.
Alors c'est pas la CAF qui fournit la lettre de dénonciation. C'est le modèle, ça s'appelle un site qui s'appelle modellettre.com. Et tu payes 3 ou 4 euros, pas cher, hein, et tu as aimé, même sans payer d'ailleurs, tu as un modèle de lettre de dénonciation qui t'est fourni. Sans payer, tu as quand même un modèle de lettre de dénonciation, mais qui est un peu général, quoi. Mais pour la CAF, tu peux effectivement, en payant 3 ou 4 euros, vraiment avoir... On vit vraiment dans une époque vraiment formidable, hein. Voilà.
Alors, faut savoir respecter les traditions, et la tradition de dénonciation en France,
c'est tout de même
quelque chose qu'on maîtrise depuis très longtemps. Donc je te prierai de ne pas cracher sur nos traditions ancestrales.
Ouais, c'est les trucs qui viennent de la dernière guerre, c'est moins que l'on puisse dire. Alors j'irai tomber aussi sur des choses intéressantes, mais je sais pas si... Ah bah si, je vais avoir le temps de vous en parler. Tracker GPS, espionner votre enfant. Alors c'est une société qui est américaine, mais qu'en fait elle est située à 200 mètres de l'Arc de Triomphe, à Paris donc, et qui présente son tracker GPS, c'est-à-dire alors leur publicité, je lis, mes enfants sont-ils bien arrivés à l'école, empruntent-ils le chemin habituel, des solutions de géolocalisation, technique permettant de localiser une personne ou un bien sur une carte à l'aide de coordonnées géographiques, jusque-là soumises à des infrastructures lourdes et coûteuses, sont désormais accessibles au plus grand nombre. La sécurisation des proches, enfants, personnes dépendantes, etc., et des véhicules, scooters, voitures, devient ludique. C'est la publicité de cette entreprise. Et oui, ça devient ludique. Alors, c'est ainsi qu'elle propose donc cet appareil, cette application mobile de géolocalisation. Et apparemment, ça a un certain succès. Et ça, l'entreprise espère que ça va se développer. Voilà. Donc, d'ailleurs, on peut dire qu'avec le progrès des nanotechnologies, on pourra mettre un jour, à mon avis, une puce, une poussière traqueuse à l'insu dans les cheveux des mômes, ou du mari dont on a peur, ou de la femme dont on a peur qu'il fasse des écarts. Donc voilà, on arrive vraiment dans une société de plus en plus pourlingue. Alors c'est, paraît-il, une innovation. C'est une innovation d'avoir trouvé ce GPS d'un nouvel ordre. Voilà.
Alors en plus, on pourra demander à ces gosses, puisqu'on aura le parcours qui sera déterminé, pourquoi ils ont appris
le bon chemin
ce jour-là,
etc.
Contrôlez vos enfants, vous pourrez en faire ce que vous voudrez.
Voilà, j'ai encore d'autres trucs alors là, il faudrait plus de temps peut-être pour développer. Puis, alors, on s'en doutait un peu, vous savez qu'il y a eu le printemps arabe, il y a eu des... en Libye, à cette antenne, j'en avais parlé, en Libye, quand on a renversé le colonel Kadhafi, on s'était aperçu qu'il avait des outils pour la répression qui venaient d'entreprises, en particulier l'entreprise française, Amnesis, qui lui avait fourni donc de quoi réprimer sa population et ses dissidents. Et là, on a appris au Bahreïn. Au Bahreïn, vous savez, c'est une petite monarchie pétrolière du Golfe Persique, mais très riche. Eh bien, le printemps arabe n'est pas fini là-bas. Il y a toujours des révoltes, etc. Et il y a eu toute une bagarre là-bas, entre autres au niveau des armes qui étaient fournies pour maintenir l'ordre. Et c'était fourni, devinez par qui? Eh bien, par la France, un marchand d'arbres français... qui donc, ça s'appelle Alcetex, qui se présente, je le cite, comme leader des produits pour la gestion démocratique des foules. Carrément, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il fournit? Eh bien, il fournit des lanceurs, 56 mm, spécialement étudiés de sorte que le diamètre des munitions soit supérieur au diamètre de l'orbite de l'œil humain, quel que soit l'âge et le sexe, afin de ne pas pouvoir causer, soi-disant, de blessures mortelles. Ensuite, il fournit aussi une grenade lacrymogène destinée au maintien de l'ordre en milieu extérieur ou intérieur. qui libère instantanément un nuage de gaz, évidemment, pulvérulent, qui est couvert par un fort effet sonore qui déstabilise les manifestants. Alors c'est ainsi que les gens là-bas au Bahreïn ont eu nos armes françaises dans la gueule. Il y a eu des morts, en particulier des victimes de grenades lacrymogènes, mais aussi de victimes d'autres lancers divers et multiples. Et alors ce qui est assez... faut savoir que la France a vendu 26 millions d'armes au Bahreïn en 2011, dont 16 millions de bombes, torpilles, grenades, pots fumigènes, mines, missiles, etc., cartouches, et 421 000 d'agents chimiques ou biologiques toxiques. Voilà, c'est des agents anti-émeutes, d'accord. Même des substances radioactives, du matériel composant et substances connexes. Alors, il y a eu on parle de dizaines, voire de centaines de morts au Bahreïn grâce à nos armes. Alors, ce qui est, en France, on n'a pas entendu parler beaucoup, hein. J'ai tombé sur un article sur le site Bug Browser, dont le journaliste fait du bon boulot là-dessus, de recherche, etc. Mais il faut savoir que lui, il a tout fait pour que le nouveau pouvoir français puisse interdire la vente de ces armes à ces pays qui ne respectent pas, c'est moins que l'on puisse dire, la liberté quelconque de ses opposants. Eh bien, il s'est vu un refus, en particulier de Fabius, qui a dit que bon, quand un pays ne respecte pas les droits de l'homme, comme ils appellent ça, pour les armes, on est d'accord pour leur supprimer les livraisons d'armes, mais pour ce type de choses, c'est quand même du maintien de l'ordre, c'est pas la peine d'interdire. Alors voilà, le débat est ouvert, je crois qu'Héro commence à penser que ça va un jour déborder, puisqu'il y a eu, on voit sur Internet, les gens qui ont récupéré des centaines de culots de grenades françaises, et les a entassés. On voit la photo, ils peuvent pas nier. C'est pas vrai. Il y en a des centaines qui ont récupéré par les manifestants dans cette monarchie pétrolière. Et ça vient bien de France.
Ben oui, c'est notre savoir-faire en matière de gestion démocratique des foules.
Voilà.
Qu'est-ce que c'est que ces pacifistes qui non seulement tarnissent notre réputation et qui en plus veulent nous casser le commerce, quoi.
Ouais, tout à fait. Bon, on va peut-être se quitter, à moins que vous ayez encore plus.
Alors, demain, mardi 9 avril, à Nogent-sur-Seine se déroule une opération d'alerte en cas de problème à la centrale nucléaire. Comme d'habitude, les consignes, c'est de rester confiné à l'intérieur des bâtiments. Donc, c'est particulièrement adressé aux écoles où les enfants n'ont pas le droit de sortir de la journée. Ça se situe sur deux communes, donc Nogent et une commune aux alentours. Donc c'est dans le petit périmètre, sachant que le grand périmètre en cas d'incident nucléaire, c'est 40 km autour de la centrale. Hein, bon, voilà. Et donc, en sachant que à Nogent, ils vont faire des travaux. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un nom spécial, comme ce va être fait dans plein de centrales nucléaires, pour que les centrales durent plus que 40 ans.
D'accord. C'est réjouissant.
Les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenus, seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. Logique de la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital.
de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se pousser. Les gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Je vous propose de vous retirer maintenant, monsieur de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine. C'était donc Éric Gor, une parole anarchiste communiste, chaque semaine, donc, sur l'Écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Vous pouvez retrouver nos émissions aussi sur le blog Chat Noir 51 et sur le site Haussier Libertaire.